Coopérativisme et théorie des limites. Avec Mireille Bruyère, économiste, responsable du master Nouvelle économie sociale, Université de Toulouse 2. Jacques Prades, économiste fondateur du master Nouvelle économie sociale à l'Université de Toulouse 2.
On était très proche de décroissance depuis très très longtemps, sauf que toutes nos coopératives et tout ce qu'on crée sont sur le marché. Voilà, donc on avait pensé à ouvrir quelque chose qui serait au croisement de ça, c'est-à-dire comment essayer de réfléchir ces questions. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient ce matin à la conférence? Non. Ouais, certains. D'accord. Bon, parce qu'autrement, on peut faire un lien avec Alors, quand on a commencé à démarrer sur cette question, il y a donc 19 ans, qu'est-ce qu'on constatait? On constatait qu'il y avait en France un renouveau d'expérience, un renouveau d'initiative qui était né dans la fin des années 60. Alors, ces initiatives, c'était quoi? C'était les crèches parentales, c'était l'habitat coopératif, c'était... voilà. Qui avait bien quelque chose à voir avec le début de l'associationnisme ouvrier des années 1830. D'accord, hein, il y avait ce truc-là. En même temps, qui était très très éloigné de l'isomorphisme de l'économie sociale. C'est-à-dire que l'économie sociale qui se prétendait d'une certaine manière un peu les enfants de ce mouvement-là était finalement arrivé très très loin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette notion, la d'isomorphisme? C'est le fait que toutes ces familles ont été ramenées soit à une banalisation par le marché, c'est-à-dire que se sont rapprochées tellement des entreprises classiques que finalement elles sont devenues identiques. Hein, c'est le cas de toutes les banques coopératives qui, à force de se rapprocher des banques, n'ont plus eu rien de coopératif. Et en 2007, quand même, dans les 17 banques qui ont été à l'origine de la crise, le Crédit Agricole faisait partie des premières banques, hein, des banques qui avaient fabriqué le plus de produits dérivés. Donc, voilà, il y avait de quoi se poser des questions sur la coopération. Et de l'autre côté, des formes d'entreprises qui, elles, s'étaient complètement institutionnalisées. Et évidemment, la mutualité française est un exemple parfait. Hein, c'est-à-dire aujourd'hui, quand vous parlez de la mutualité, bien peu se rappellent que la mutualité, c'est les enfants du secours mutuel, de tous ces trucs qui ont été de véritables innovations sociales en leur temps.
Jacques ?
Ouais.
Est-ce que tu peux parler un peu plus fort ?
Je peux. Et en fait, on s'est aperçu que les entreprises d'économie sociale, finalement, s'étaient rapprochées du marché, s'étaient rapprochées des institutions, à cause d'un phénomène majeur, c'est qu'elles avaient cru à la fable des Trente Glorieuses. Elles avaient cru à la fable des Trente Glorieuses. Les Trente Glorieuses, c'est cette période d'après-guerre qui a duré 20 ans, d'ailleurs, qui n'a pas duré 30 ans, parce que si on regarde bien... En 1946, il n'y a pas de croissance, donc il faut attendre 1947-1948. Et en 1970, ça commençait à s'ébranler. Hein. Donc en fait, les Trente Glorieuses ont 20 ans. Mais ces Trente Glorieuses, elles ont été considérables parce qu'elles ont cassé l'idée de Marx, l'idée marxiste selon laquelle, dans le temps, plus le capitalisme irait et plus les ouvriers seront pauvres et il y aura une tension sur l'évolution des salaires. Et elle cassait, de l'autre côté, l'idée libérale selon laquelle le marché pouvait s'autoréguler. Hein. Et donc ces Trente Glorieuses, elles sont arrivées comme une espèce de moment où, finalement, il n'y avait plus de place. Parce que si effectivement le capitalisme arrive à réaliser ces deux aspects, c'est-à-dire il arrive à augmenter les salaires, cette paupérisation promise n'existe plus, et qu'ensuite l'État arrive à réguler le marché, alors il ne reste plus beaucoup de place. Et je crois que toute l'économie sociale s'est un peu concentrée sur ces questions, sans voir que finalement derrière les Trente Glorieuses, il y avait un productivisme qui était sans cesse croissant, il y avait un consumérisme quand même entre 1945 et 1975, le crédit à la consommation en France a été multiplié par 51, d'accord, c'est pas rien. Hein. C'est-à-dire que cette idée sur laquelle la consommation permettrait de relancer la croissance, etc., oui, mais c'est au prix d'un endettement croissant des gens. D'accord. Et puis après, la dernière chose, c'est l'extractivisme. Hein, c'est-à-dire que ça suppose quand même une ponction sur les matières premières fortes. Dans les années 80, il y avait des gens qui ont continué à croire à cela, Parti socialiste, puisque l'arrivée de Mitterrand au pouvoir fait qu'on croit encore à une relance de la consommation. Quand Moreau arrive, hein, c'est une relance par la consommation qui est mise en place. Et puis d'autres gens qui tournent un peu la chose, je pense à Alain Touraine, qui disent bon, en fait, c'est que la société industrielle n'existe plus maintenant, on arrive vers une société de service. D'accord ? La société de service, c'est le nouveau truc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'industrie et tout va être dans la relation. Et c'est à ce moment-là que l'économie dite solidaire arrive et va un petit peu transformer les choses, c'est-à-dire que l'économie solidaire se présente comme une économie qui serait une économie des services et qui serait une économie de la relation et qui finalement succéderait à cette période des temps glorieuses. Donc voilà à peu près le contexte dans lequel se passent les choses. Nous, à l'époque, on ne croit pas trop à ça. On ne croit pas trop à ça, c'est-à-dire qu'on ne croit pas ni à la société de service. Bon, toute l'équipe est assez convaincue. On dit non, ce qui se passe avec les services, ce n'est pas une montée des services, c'est une industrialisation des services. D'accord ? Hein, c'est pas une société où il y a de plus en plus de services, c'est au contraire des services qui sont industrialisés. Donc le phénomène ne change pas, l'agriculture continue à s'industrialiser. On n'est pas du tout dans ce truc-là. Et la deuxième des choses, c'est que l'idée selon laquelle les gens continuent à avoir des salaires élevés, que la société continuera à évoluer dans ce truc, on se dit, a priori, c'est pas sûr, ça évolue pas comme ça. Et c'est les premières marques, les premiers écrits, les premiers travaux sur la question de l'exclusion sociale qui va se poser. Voilà, alors. Ça, c'est à peu près le contexte dans lequel on était lorsqu'on crée cette formation. Au départ, on ne s'attendait pas au succès qu'on va rencontrer. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un peu compliqué. On est 4-5 universités à se lancer là-dessus. Donc, il y avait Aix-en-Provence, Lyon, Valenciennes et Toulouse. Donc, le truc évolue comme ça un petit peu au hasard. Et petit à petit, on va avoir une population qui va devenir de plus en plus nombreuse. On avait cette année 117 candidatures pour 20 places. Hein. Donc voilà, un mouvement très très fort qui s'accentue. Et des jeunes ou moins jeunes, donc on a une formation qui varie entre deux tiers, un tiers à peu près, hein. Un tiers de personnes qui ont arrêté au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, et qui changent d'orientation, qui n'ont plus envie. Donc ça, c'est à peu près un tiers. Et deux tiers de jeunes qui viennent d'un peu partout. Enfin, un peu partout. Un peu partout, pas tout à fait, parce que, grosso modo, c'est toujours le même pays qui revient. Hein. C'est essentiellement l'Europe et l'Amérique du Sud. C'est essentiellement là que ça se passe. Après, le reste, on a très très peu de personnes. Voilà, et on en arrive à la question de la théorie des limites, donc de la décroissance, c'est-à-dire comment fait-on pour à la fois être dans cet enjeu-là et à la fois vanter les mérites d'une... ce qu'on dit, c'est qu'on n'a jamais été décroissant. On a toujours pensé que les questions posées par le système aujourd'hui ne trouvaient pas de réponse à la croissance. C'était plutôt ça. C'est-à-dire que croissance ou pas croissance, de toute façon, c'est pas comme ça qu'il faut poser les questions. Il peut y avoir des coopératives qui travaillent, hein, qui vivent, mais dont le taux de croissance n'est pas la clé de résolution de ces questions. C'est plutôt en ces termes-là que... Très fortement attaché à tout ce qui constitue les coopératives, c'est-à-dire la constitution de réserve. Et plus la constitution de réserve est forte, plus les revenus distribués sont faibles, moins on est attractif du point de vue des capitaux extérieurs, ce qui veut dire que le capital devra être financé essentiellement sur d'autofinancement. Il peut y avoir évidemment des apports extérieurs, mais il ne faut pas compter trop là-dessus. Et tous les exemples qu'on constitue sont le modèle économique, il est fondé sur ça. Hein. C'est-à-dire des revenus distribués qui sont relativement faibles, hein, au moins de manière au début initial, après il peut y avoir une restitution, mais enfin, ils sont relativement faibles. Et la constitution de réserve qui constitue le gros paquet de la coopérative, de sorte que lorsque il y a un élément extérieur qui vient perturber la situation, la coopérative possède des moyens. Bon, on a un exemple. Pas le nom, mais une coopérative qui a été créée il y a 15 ans, qui aujourd'hui a à peu près en réserve 2 ans de paiement, de rémunération de ses coopérateurs, 35 coopérateurs. Le truc considérable que ça représente, c'est des choix hein, qui sont faits, et c'est des choix qui permettent effectivement d'avoir des investissements de long terme qui prévalent à des choix de court terme. C'est ça l'idée. Hein. C'est-à-dire que lorsque vous avez ces capacités, vous avez des possibilités de gérer les choses autrement. Voilà. Je m'arrête là. Après, je peux compléter, mais on ne va pas prendre tout. Je préfère que vous posiez des questions et puis on va avancer comme ça.
Bon, peut-être je vais juste faire un complément, mais peut-être c'est comme c'est un atelier, l'enjeu c'est peut-être aussi de discuter entre nous et... pour compléter ce qu'a dit Jacques, donc Jacques Brad et Mireille Boyer, donc on est tous deux enseignants à l'université de Toulouse hein, et responsables de ce master économie sociale. Et donc on est venu ici effectivement pour parler de l'expérience qu'on a, hein, de cet enseignement, mais aussi des pratiques qui sont mises en place suite à cet enseignement, et donc qui viennent en tout cas proposer des réflexions et montrer avoir des expérimentations en lien avec la question effectivement écologique et la question de la démocratie. Ce qui nous caractérise, je crois, à Toulouse, c'est aussi que on va avoir une analyse de l'économie un petit peu différente que la position assez classique de l'économie critique. C'est-à-dire que dans le champ de l'économie, comme certainement vous le savez, l'économie en tant que discipline est largement dominée par les économistes libéraux, que ce soit dans les médias, comme le savoir, que ce soit à l'université. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'économie hétérodoxe qui vient critiquer ce type d'économie, que ce soit marxiste ou keynésienne, en disant, bon, mais finalement, on peut faire une autre économie. On peut faire une autre économie, répartir les richesses différemment. Tout ça est tout à fait intéressant, mais ce que nous, je pense qu'on apporte, ou en tout cas, et ce qui s'articule avec le master qu'on a, c'est qu'en fait, on partage l'idée fondamentale que le capitalisme, c'est pas simplement une mauvaise répartition des richesses, c'est ce que tu as dit, Jacques, d'ailleurs, en parlant des services, c'est finalement l'idée que le progrès se résume à une industrialisation du monde, quoi. Hein, c'est-à-dire que le progrès se résume au fait qu'on va organiser de manière toujours plus efficace la production, donc en gagnant en efficacité, effectivement, la question de qu'est-ce qu'on fait de cette efficacité peut être posée par l'économie critique en disant, ben voilà, on a gagné en productivité, ben on va augmenter les salaires. Hein, donc ça, c'est ce que peut faire, par exemple, le marxisme, ou en tout cas, ou la social-démocratie, par exemple. En fait, nous, on critique déjà l'idée que le progrès pourrait d'abord commencer par être une industrialisation du monde, une rationalisation du monde, qui est complètement couplée avec le développement technoscientifique. C'est-à-dire qu'il y a une critique, effectivement, chez nous, non seulement de l'industrialisation, de la rationalisation, et une critique aussi des technosciences. Donc, en fait, d'une certaine manière, notre position et l'enseignement qu'on porte, c'est quelque chose qui vient critiquer l'économie en tant que telle, d'une certaine manière. Hein. C'est pas une autre économie, mais c'est finalement, est-ce que le fait qu'on puisse concevoir comme ça des pratiques économiques séparées du reste des questions politiques n'est pas déjà un problème en soi, hein. C'est pour ça que, par exemple, ce matin, il y avait un débat sur le revenu de l'universel avec Benoît Hamon. Bon, c'est tout l'intérêt, j'imagine, toute la ce qui conduit à avoir ce type de proposition est tout à fait louable, hein, pourquoi pas effectivement permettre à des gens de vivre correctement, etc. Mais nous pensons que justement c'est rater le problème, parce que le problème fondamental c'est que finalement distribuer un revenu de base à tout le monde, c'est finalement augmenter encore la sphère de l'économique. Et que la question, c'est d'avoir un projet politique, et effectivement, ensuite, sur ce projet politique, se poser la question des moyens de ce projet politique, mais pas de se dire il faut changer l'économie. Il faut économiser, il faut par exemple créer des revenus qui valorisent telle ou telle activité. Parce que de notre point de vue, c'est participer du problème. C'est vrai qu'on peut donc être proche de la question des décroissances, c'est-à-dire dire finalement... On conteste la place de l'économie fondamentalement, parce que l'économie, pour nous, c'est la science de l'efficacité. Et le problème, c'est cette ultra-efficacité qui détruit le monde. Cet ultra-productivisme qui détruit le monde. Et ce qu'on fait dans le master, c'est d'essayer de se poser ces questions en rentrant d'abord dans la question démocratique. Qu'est-ce que c'est que la démocratie quand on parle de production ? Quelles questions sont posées quand on a des collectifs de personnes qui veulent s'engager dans un projet productif ou d'habiter, etc. Comment on s'y prend et ensuite, effectivement, la question économique vient par la suite. Et quand on fait ça comme ça, on se rend compte en fait que les projets qui sont portés par les coopératives, elles portent en elles la question écologique. C'est-à-dire elle est complètement... C'est pas quelque chose qui viendrait se rajouter. Elle est... comprises dans la démocratie. D'une certaine manière, elles sont presque synonymes. C'est-à-dire que la démocratie productive, les coopératives, c'est quelque chose qui s'auto-limite. Nous, on insiste beaucoup sur le fait que finalement, les coopératives n'ont pas vocation à devenir des grandes coopératives. Elles ont vocation à montrer effectivement mais que ça marche et que ça marche bien, dans le sens que ça permet quand même de faire naître des projets politiques qui sont viables. Qui porte la question de la démocratie, on voit un homme, l'égalité, enfin l'échelle des salaires très très resserrée, les réserves impartageables comme a dit Jacques, etc. Que ça marche et qu'effectivement les questions de la finalité de la production, les questions de l'usage, pourquoi on fait, etc. sont au tout départ du projet. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de coopérative qui ne se pose pas la question écologique. C'est dans ce qu'on porte, en tout cas, dans les collectifs qu'on porte. Voilà, donc je voulais quand même insister sur ce qui nous caractérise aussi, puisque l'atelier, c'est théorie des limites. Je voulais faire le lien avec ce qu'avait dit Jacques. Voilà, alors peut-être l'intérêt, c'est que... pose des questions, qu'on débatte entre nous, plutôt que nous, on parle pendant une heure. Je passe la parole.
Et les formations que vous proposez, c'est donc le master, oui. qui a tout. Et c'est est-ce que vous, depuis combien de temps il existe, et que font les personnes maintenant qui sont sorties de ce master?
Alors, il a été créé il y a 19 ans, donc en 2000. On a beaucoup été aidé par l'arrivée de Guy Asquat au ministère d'économie solidaire, parce qu'il n'y avait pas de formation à cette époque. Et quand Jospin a été le premier secrétaire d'État à l'économie solidaire, j'ai reçu un jour un coup de téléphone sur mon bureau d'un type qui était le directeur de cabinet du ministère et qui m'a dit: l'auteur de chercheur en France, les universités qui étaient engagées là-dessus, et vous n'êtes que deux universités, donc dites-nous de quoi vous avez besoin. Bon, on ne posera pas la question plusieurs fois, donc je vous rappelle demain, je prends une coordonnée, et donc j'ai passé une nuit à me dire, bon, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je vais leur demander. Donc on a beaucoup été appuyé là-dessus, le départ nous a beaucoup été facilité. Alors ça fait donc 19 ans qu'il a été créé. Qu'est-ce qu'au fond les étudiants? Sur les études qu'on a faites, donc là, c'est un peu vieux, ça a 4 ans, hein, donc sur les 15 premières années, on a pratiquement un taux de chômage qui est nul. Ça, c'est le premier résultat quand même intéressant. Et on a 80%, entre 75 et 80% de gens qui restent dans le domaine. C'est-à-dire que très peu s'en vont dans un privé lucratif pur, et très peu passent des concours administratifs. Donc on reste dans ce domaine-là. Et on a à peu près, alors tout dépend comment on calcule le truc, mais si on le calcule sur le nombre nombre de promotions qui sont sorties, on a à peu près un quart des étudiants qui créent des propres projets. Mais, attention, hein, ça c'est si vous faites la totalité des 15 ans. Si vous faites sur l'année qui suit la formation, c'est-à-dire les 2 ans de master, grosso modo, quand on a 2 entreprises créées, c'est beaucoup. D'accord ? C'est-à-dire qu'immédiatement après la formation, c'est très rare. Alors bon, ça, moi, j'ai essayé d'y travailler là-dessus, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les Québécois sur cette question. Bon, la France, c'est la France, quoi. Donc, le Québec, ils sont très américains, et ils créent des boîtes un peu facilement, quoi. Ils ont, voilà, alors je sais pas de quoi ça dépend... un peu de législation peut-être, un peu, je ne sais pas. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une capacité à créer des structures beaucoup plus faciles que les autres. Hein? Bon. Après, il y a le statut de l'université par rapport aux business schools, etc. chez nous, qui n'existe pas chez eux. C'est-à-dire que les écoles de commerce chez eux, elles se développent à l'intérieur des universités, alors que chez nous, c'est 2 instituts différents. Voilà. Après, bon, je ne sais pas, il y a une multitude de raisons qui fait qu'on a beau, on a créé un incubateur pour faciliter les choses, c'est-à-dire... une structure qui est financée par la région et qui lie à la fois l'Union régionale des SCOP, Midi-Pyrénées Active, le Crédit Coopératif, l'université, etc., pour gratuitement aider des personnes à monter leur structure dès lors qu'elles sont coopératives, etc. Bon, on a gagné un petit peu, mais pas énorme. Alors, après, peut-être c'est l'âge. Voilà, c'est que les gens n'ont pas envie à 24 ans, quand tu sors de master, de monter une boîte, quoi. On a beaucoup de jeunes qui nous disent « Non, j'ai envie de partir un an à l'étranger, voyager, etc. » Bon, là, vous êtes aussi... hein, vous ne pouvez pas inventer les trucs, pas.
Justement, sur ce sujet, on avait essayé à un moment donné de monter le SCIC.
Oui.
Et on n'a pas réussi, finalement, une entreprise classique.
Oui.
Et,
c'est une entreprise de quoi ?
On a trouvé que c'était à l'école.
Oui.
On a trouvé que c'était extrêmement difficile.
Bon, alors la SIC, c'était bon, enfin, c'est compliqué. Hein, elle a été montée dans des conditions un peu particulières. Au début, c'est une usine à gaz. Ça s'est beaucoup plus simplifié. L'agrément d'utilité sociale donné par le préfet n'existe plus. Donc c'est beaucoup plus simple. Ça reste quand même une entreprise coopérative très particulière qui est fondée sur la théorie des parties prenantes américaines, c'est-à-dire que grosso modo, vous mettez des collèges, des grands, et c'est la SIC, c'est la transcription dans le modèle coopératif de la théorie des parties prenantes. Et la théorie des parties prenantes, c'est un truc très simple, hein, aux États-Unis, de gens qui à un moment se sont dit « Mais attendez, les actionnaires, ils n'ont pas tout le pouvoir, c'est pas eux qui doivent décider tout seuls. Dans une entreprise, c'est composé de salariés, c'est composé d'actionnaires, c'est composé de clients, c'est composé, etc. Et tous ces gens doivent pouvoir parler. » Donc finalement, un truc assez banal, quoi. Hein. Et on a transformé ça en matière coopérative. Alors, il y a des domaines dans lesquels c'est pas mal. Il y a des domaines dans lesquels, quand vous essayez... Alors, je sais pas, moi, je pense à la librairie études, par exemple. On a une librairie dans notre université, à l'intérieur du site universitaire, qui est une SARL. Cette librairie, elle tournait pas très, très, très bien. Pourquoi ? Parce que les profs n'avaient pas l'habitude d'acheter les bouquins dans ces librairies. Les étudiants non plus. Du coup, ça faisait quelque chose. Alors là, l'opération SIC, elle est très bonne parce que vous constituez des collèges de chaque catégorie. Donc, grosso modo, vous les mettez dedans. Hein. Vous dites aux profs, vous avez un collège de profs, voilà, vous allez rentrer, vous allez mettre 4 sous et vous allez rentrer dans la coopérative. Du coup, les profs sont engagés au titre de ça et ils créent un espèce de collectif. Les étudiants sont pareils, ils rentrent. Et du coup, ça forme un espèce de micro-climat, si vous voulez, à l'intérieur de l'université, qui fait que, voilà, ça fonctionne. Donc, dans des situations de ce type, ça marche. Autrement, la SIC, c'est quand même une autre forme de gouvernance. Ce n'est pas une SCOP, hein. Ce n'est pas une société coopérative ouvrière.
Moi, je trouve ça idéal, comme schéma.
Non, mais je suis en train de dire l'inverse, moi. C'est-à-dire, je dis, c'est pas si idéal, quoi. Je dis, ça correspond à des schémas, à des moments donnés où vous avez des collectivités, etc., qui peut être intéressant. Il y en a une qui est en train de se créer, qui est une station de ski du côté des Pyrénées-Orientales. Là, je crois, une station de ski sous forme de SIC, ça peut être pas mal. Ah, eh bien, c'est un projet, donc alors, c'est intéressant. Moi, j'étais à 2-3 réunions parce que pas de gens qui contestent qu'au niveau climatique, etc., il faut plus station de ski. Donc, d'autres qui disent, mais peut-être on pourrait organiser ça avec quelque chose de moins coûteux en électricité. Donc, ils essaient de se tirer vers un truc de ski de fond. Moi, j'ai, dans les réunions avec lesquelles j'étais, j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est intéressant de, que des projets comme ça ne soient plus des projets de mecs qui ont du pognon et qui se foutent à peu près du terrain sur lequel ils sont, mais qu'il y ait plein de gens qui viennent, y compris des gens qui étaient totalement opposés à ce type d'opération. Voilà, je trouve que ça, c'est intéressant parce que ça met quelque chose d'un peu contradictoire. Après, c'est un truc particulier quand même, hein, la SIC.
Après, tu peux peut-être rappeler ce que les étudiants ont monté et qui fonctionne. Alors, par exemple, il y a eu l'autoportage, par exemple.
Ouais.
Enfin, voilà, certaines expériences.
Alors, l'autopartage, c'était... Ouais. L'autopartage des éoliennes, les éoliennes collectives, ça c'était plutôt pas mal. L'autopartage, bon, ce système, ça, maintenant ça existe, il y a 20 ans, il n'y en avait pas beaucoup. C'est un système donc, de partage de voitures, hein, c'est-à-dire vous avez...
Dans les villes, comme c'est dit,
hein. Et ça, grosso modo, on dit que ça économise 7 voitures en ville. Hein, donc c'est une voiture que vous partagez. Alors là, vous voyez, ce matin, là, Benoît Hamon, il parlait des plateformes numériques, etc. À mon avis, c'est une grosse confusion qu'il fait, hein, parce qu'il ne faut pas confondre avec l'économie collaborative. Ce dont on parle, nous, c'est de l'économie coopérative, c'est-à-dire c'est des gens qui sont propriétaires de leurs choses. C'est complètement différent de Blablacar, ou, etc., hein, ça, ou d'Airbnb, ou de ces trucs-là. Hein. Ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Nous, c'est oui, on voit bien sur les vélos, par exemple.
Blablacar n'appartient pas aux ceux qui font Blablacar. Donc l'idée quand même de la coopérative, c'est que en fait il y a ce que disait la double qualité, ce qu'on disait ce matin, c'est que on est et à la fois propriétaire et à la fois l'usager. C'est bien parce qu'il y a cette articulation forte dans une même personne, hein, faire mieux, que justement ça fonctionne. C'est parce qu'on met les gens se prêtent entre eux des choses, mais que s'il y a un intermédiaire qui est lucratif. La plateforme qui veut faire de l'argent, c'est une ubérisation d'une certaine manière. C'est pas parce que ça vient, entre guillemets, mettre en collaboration des gens qui n'étaient pas en collaboration, on se tient, j'ai une place de dans ma voiture, ça a l'air d'être du partage, que ça change fondamentalement le jeu du capitalisme. Donc,
Mais ce qui est intéressant dans cette économie collaborative, c'est que quand vous regardez le schéma publicitaire qu'ils utilisent, ils utilisent un schéma publicitaire qui est le nôtre, c'est-à-dire c'est le lien social, c'est la proximité. Le cas le plus typique, c'est la ruche qui dit oui. Hein, la ruche qui dit oui, elle vous dit « Ouais, mais voilà, on va mettre un maraîcher à côté de chez vous, là, dans les 50 km, etc. » En fait, quand vous regardez la chaîne de valeur ajoutée, c'est eux qui l'ont. C'est-à-dire, c'est leur outil informatique qu'ils vendent. C'est pas la proximité. La proximité, c'est le petit truc qui vous fait dire « Je vais acheter mes carottes à côté de chez moi, quoi. » Mais c'est pas ça qui marche. Là où est la valeur ajoutée, c'est leur outil. Et c'est la même chose dans Airbnb. C'est la même chose en Blablacar. Ce qui est fort, c'est pas le lien. Moi, je raconte toujours que la première fois que j'ai utilisé Blablacar, j'ai pris un type. Je partais de Toulouse, j'allais à Montpellier. Et je lui dis, qu'est-ce qui vous fait utiliser Blablacar? Il me dit, oh, c'est le lien social. Et au moment où je prends mon ticket, il s'endort et il s'est réveillé à Montpellier. Il est gentil, mais voilà, donc c'est tout ça, c'est du baratin, mais ce qui fait la force de leur truc, c'est que c'est très très bien foutu du point de vue informatique, hein. C'est remarquable, hein. C'est-à-dire, c'est vraiment, on voit bien qu'il y a des développeurs derrière, qu'ils ne traînent pas, quoi, hein. Ils ont bien calculé le truc, comment ça devait marcher, les critiques qui étaient faites par les passagers vis-à-vis du conducteur, le conducteur vis-à-vis, tout ça est très très bien fait. Et donc on voit bien que la valeur ajoutée, c'est celle-là. Mais quand Blablacar vous vend leur truc, ils ne vous vendent pas ça, ils vous vendent de liens sociaux. Hein, ils vous disent, ouais, ça...
Pareil pour Airbnb, oui.
Ou Airbnb. Ah. D'autres questions? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que, alors, vous le dites du Crédit Agricole, mais vous pouvez le dire aussi des coopératives de consommation. On n'a plus de coopératives de consommation en France, avec elles ont été bouffées. Bon, il y a une force incontestable du marché. C'est-à-dire que les gens, au début, ont un projet politique, ils montent ce truc ensemble, et puis petit à petit, il y a la concurrence, il y a le fait que vous avez des impératifs d'autres banques qui se positionnent différemment, et que vous êtes tenté de faire pareil. Et que des fois, c'est très compliqué. C'est-à-dire que quand le Crédit Agricole, par le biais de sa société cotée en bourse, récolte des ressources à deux fois moins cher que ce que vous avez sur le marché, les autres se disent « mais pourquoi on ne ferait pas pareil ?» Pourquoi nous, on passerait par des circuits? Donc il y a cette force incontestable que le capitalisme est un système qui arrive à choper partout de l'argent à gagner, qui arrive à se positionner. Que les autres, il faut qu'ils utilisent des tas de ruses, des tas de pratiques particulières pour arriver à se concurrencer là-dessus. Et que ça, c'est très compliqué. Et que la chose la plus simple, c'est en fait la banalisation. Mais à mon avis, votre question, elle en amène une autre. C'est vrai, ça, il y a cet effet d'isomorphisme. Mais la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi ça ne marche pas partout? C'est-à-dire pourquoi vous avez des lieux dans lesquels ça ne fonctionne pas? C'est-à-dire qu'il continue à y avoir des résistances, des entreprises qui fonctionnent, etc. Alors moi, j'ai étudié en Europe deux cas qui sont les cas les plus emblématiques. C'est les coopératives de Mondragon au Pays Basque espagnol. Hein, et c'est les coopératives du Trentino, dans le sud de l'Autriche, au nord de la Vénétie. Et là, il faudrait longtemps pour en dire, mais je crois qu'une des dimensions les plus fortes, c'est que leurs coopératives, elles ont toujours eu une dynamique politique. C'est-à-dire, ce sont des structures économiques, mais dont la dynamique fondamentale, c'est une dynamique politique, d'autonomie des régions, de gens qui ne veulent pas partir de chez eux. Voilà, dans le Trentino, comme à Mondragon, c'est pareil. Il y a les Basques du Pays Basque espagnol. La première, comme vous leur dites, mais pourquoi vous avez monté ces trucs-là, etc. Ils vous disent parce qu'on voulait rester au Pays Basque. Voilà, étant au Pays Basque et voulant rester au Pays Basque, bien, il fallait qu'ils trouvent un outil, et cet outil, ça a été l'outil qu'ils ont créé. Trentino, c'est pareil. Hein, la région de Trent, c'est une région qui a été annexée à l'Italie assez tard, pratiquement l'autonomie italienne. Elle était disputée entre l'Autriche et l'Italie. Et ils ont toujours gardé une volonté d'être autonomes, d'être indépendants, etc. Et dans des régions qui sont relativement pauvres, parce que le Pays Basque espagnol, c'est pas une région très riche, minière, point de vue minier, etc. Les autres non plus. Il a fallu qu'ils construisent des outils. Et ils ont, les deux, quand même plus de 50 ans. Mondragon, c'est 80 000 personnes, dont 50 000, un peu moins de 50 000 sont coopérateurs, sur 130 coopératives, qui couvrent tout, y compris l'université coopérative. L'université de Mondragon est une université coopérative. La sécurité sociale, la Gounaro, est coopérative. On les a jetés, Franco les a jetés en leur disant... Je ne comprends pas, vous n'êtes ni des patrons, ni des ouvriers, nous on n'a que deux cases. Et ben, ils ont dit, ben, qu'à cela ne tienne, on crée notre propre sécurité sociale. Donc ils ont créé une sécurité sociale, ils ont créé une banque, Cara Laboral. Ils ont créé des usines de toutes sortes, des coopératives de consommation, des coopératives de production, des coopératives d'élevage de bêtes. Voilà, donc ils ont créé une espèce de microsystème qui a fait qu'ils ont pu tenir, mais toujours avec cette dimension politique. Par exemple, les écoles de langue basque ont été financées essentiellement par les coopératives. Et à l'époque où Franco interdisait toutes les langues régionales et obligeait à parler le castillan en Espagne, eux, ils ont continué à financer les Icastolas. Donc, bon, et vous trouvez le même phénomène sur Trent. Le Trentino, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez une... Ça, je crois que c'est important. Et c'est sûr que quand les projets passent la main, je pense par exemple à une très belle coopérative française qui s'appelle Ardelaine. Ardelaine, les deux gérants d'Ardelaine sont partis à la retraite les deux, et donc ils ont lâché cette... C'est là où il y a un risque fort, c'est-à-dire que la nouvelle équipe, les nouvelles personnes qui arrivent, elles ont perdu le fil de l'histoire, la mémoire de l'histoire, d'où cette importance très très forte sur la mémoire qu'ils ont tous. Hein. Mondragon, vous avez un musée de Mondragon, eux aussi ils ont créé un musée. Le musée, c'est un espèce de lieu dans lequel on répète, on redit l'histoire de ces lieux, comment elle est née, dans quelles circonstances, etc. Et je crois que ça, c'est une dimension forte et qui n'est pas évidente à mener, c'est-à-dire de laisser cette tradition. Et puis vous avez des coopératives qui ont perdu, je pense par exemple les coopératives du Jura, par exemple, sont des, à part la fruitière, les fruitières, mais autrement, les coopératives de Sainte-Claude, par exemple, n'existent quasiment plus. Hein, il n'y a pratiquement plus rien. Il reste que le musée, là. Il ne reste plus que l'histoire. C'est compliqué cette question. Comment arriver à perdurer quelque chose?
Parce que là, du coup, ça veut dire que les coopératives qui fonctionnent, elles partent d'une idée de protectionnisme très fort. C'est quand même assez ambigu, non? Du coup,
Non, moi je crois que c'est le libre-échange qui est ambigu.
C'est
le libre-échange qui est ambigu. Sur le libre-échange, soit vous êtes en haut de la tête, en haut de la compétitivité, vous en sortez, soit vous êtes au-dessous et vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc je pense que le système dans lequel on est, c'est un absurde.
Oui, oui.
Alors effectivement, ça suppose des jeux comme ça, ça suppose par exemple qu'il y ait une sorte de priorité, mais ça y aime pas mon dragon, hein, et à Trent aussi, qu'il y ait une priorité des produits locaux. Ils le font, ça se fait pas, c'est pas dit explicitement dans les statuts, mais enfin, grosso modo, vous le voyez, à Mondragon, ils ont des contrats de travail qui sont des contrats qui sont multi-coopératives. Ce qui fait que quand une coopérative est en sous-activité, la personne s'en va sur une autre coopérative, elle est employée par la coopérative. Ils ont tout un jeu, effectivement, hein, ça suppose de rester petit dans un monde de grands. Et ça, c'est compliqué, quoi. Hein. Mais il y a plein de... Nous, on a beaucoup travaillé là-dessus, hein. On y a beaucoup été, donc on a plein de trucs qu'on fournit et qui sont des espèces de... Il n'y a pas de technique véritable, hein, c'est chaque fois des bricolages qui permettent d'éviter la mondialisation. Mais la mondialisation, si vous êtes sur un système mondialisé, tout ce qu'on raconte n'a aucune importance. C'est-à-dire qu'on ira toujours vous acheter un vêtement à 3 euros. Quand vous allez chez Tati, vous achetez 3 polos pour 5 euros. Vous ne demandez pas comment sont fabriqués les polos, par qui ils ont été fabriqués, etc. C'est évident que derrière, vous avez des petites Thaïlandaises de 6 ans qui ont fabriqué votre polo. Hein, on ne discute plus là. Hein. Donc, nous, on est dans un truc dans lequel on dit toujours que le prix, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas descendre les prix aussi bas que les systèmes capitalistes. On a, en l'espace de 15 ans, divisé par 2 le coefficient budgétaire de la consommation dans le budget moyen des ménages. D'accord ? Ça, c'est pas possible.
Ouais.
Vous pouvez pas payer des agriculteurs d'un côté et puis diviser par 2 votre consommation par rapport à votre salaire. Donc, il faut payer plus cher. Et alors, le risque après, effectivement, de ce type-là, c'est le truc des bobos. C'est-à-dire de dire, ouais, mais alors, votre truc, c'est fabriqué pour les bobos, pour des gens qui ont du pognon. C'est pas vrai. Vous pouvez payer plus cher la consommation alimentaire, mais ça sera au détriment d'autre chose. C'est ça qu'il faut jouer. C'est ça qui est compliqué. Non, mais je dis pas que ce qu'on fait là, c'est facile. Hein. Il y a plein d'ambiguïtés. Hein. Je dis qu'il y a, en 20 ans, on est arrivé à montrer que dans ce système capitaliste, ici et maintenant, pas dans une société communiste à perpète, là, que je connais pas, hein, que ces trucs pouvaient fonctionner.
Ouais.
Voilà, qu'on pouvait fonctionner, qu'il pouvait y avoir des manières de fonctionner et qu'on pourrait arriver à créer. Et on a un truc dont on est très fier, c'est qu'on a, alors il n'y en a pas là, mais il y en avait beaucoup ce matin, on a des étudiants qui sont très contents. Et ça, c'est un très grand plaisir aussi d'avoir des étudiants, de sortir des étudiants qui sont contents de ce qu'ils font et qui ont, voilà, qui ne sont pas déprimés ou qui ne sont pas cyniques. Et ça, je trouve que c'est quand même une grosse chance de regarder. Oui.
Je ne connais rien à tout ça, mais du coup, le commerce équitable là-dedans, dans les gens qui sortent de votre master, est-ce qu'il y en a qui vont laisser, voilà, est-ce que ça rentre dans les...
Ouais. Toutes les petites structures, nous, si vous voulez, on s'est opposé. Alors ce matin, c'est ce que j'ai expliqué à Benoît Hamon, manifestement, je n'ai pas du tout très bien expliqué, parce qu'on ne voit qu'il n'a très bien compris, mais ce qu'on essaie d'expliquer, c'est qu'on n'est pas dans une opposition entre les statuts et puis les pratiques. Voilà. Ce qui s'est passé en économie sociale, c'est que vous avez des gens qui ont dit « mais l'économie sociale, c'est les statuts, donc les statuts, c'est association, mutuelle ou coopérative. » Et puis d'autres gens qui ont dit « mais non, c'est les pratiques de l'échange équitable, c'est les pratiques, etc. » Nous, on est parti dès le départ sur ce truc est faux. Il faut partir des statuts, d'accord, mais de dire que le statut est une condition nécessaire est jamais suffisante. Quand vous avez dit ça, ça veut dire que vous ne fichez pas. Moi, je dis une coopérative, c'est pas pareil qu'une SARL. Non. C'est une SARL. Enfin, une coopérative peut être une SARL, mais c'est une SARL qui est coopérative, qui a des statuts et qui sait fixer ses statuts. Le fait simplement de vous dire à vous que quand vous créez cette entreprise avec 4 ou 5 personnes, que votre rémunération, ça va être l'ensemble des gens qui sont autour de la table qui vont la fixer, ça déjà, pour moi, c'est un acte politique majeur. C'est-à-dire, c'est de dire que, bon, sur Mondragon, pendant très très longtemps, les salaires ont été de 1 à 3. Ça veut dire que le directeur d'une coopérative, il a 3 fois le salaire de la personne de base, et il ne peut pas en déroger. Il ne peut pas en déroger. Rien que ça, déjà, pour moi, c'est quelque chose d'important. Mais quand vous avez fait ça, quand vous avez dit ça, vous n'avez pas encore fait la totalité. Ce n'est pas suffisant. C'est une condition nécessaire. Ce qui est suffisant, c'est après d'avoir des pratiques, qui sont des pratiques qui vont venir se rajouter à travers des chartes qui vont à la coopérative elle-même et qui vont fabriquer. L'échange équitable en fait partie. Mais il faut que ça soit, il faut que l'échange équitable s'inscrive dans des statuts qui sont des statuts particuliers. Il ne faut pas détacher les deux. Et on a perdu beaucoup de temps en France à discuter. Moi, je me souviens de trucs, là, ça, on n'en finissait plus de discuter de ces histoires entre pratiques, statuts, etc. Et on n'arrivait pas à avancer jusqu'au moment où on s'est dit, mais en fait, c'est pas comme ça, il faut les combiner. Et c'est à ce moment-là qu'on va arriver à quelque chose qui va être correct.
Mais du coup, ces pratiques sont choisies librement
Oui, oui. Au niveau des chartes, vous pouvez descendre un nouveau. Par exemple, il y a un truc qu'on a réussi ces dernières années, là, c'est travailler sur des cafés culturels ruraux. Voilà, ça, c'est un truc qui marche vachement bien. Hein. Donc, on en a beaucoup maintenant. On a le café Plume à Lautrec, on a le bouche à oreille à Simor, on a. Bon, voilà. Hein. Donc, et le principe c'est celui-là. Hein. C'est-à-dire, vous avez un statut. Le statut, ça va être un statut coopératif dans lequel vous associez beaucoup de personnes. Vous définissez un projet. Il faut que les gens adhèrent à ce projet. Le poste de gérant va être un poste tournant, d'accord ? Et ensuite, il faut trouver une charte qui, dans le lieu particulier dans lequel elle va s'installer, va fonctionner avec la population et dans le cadre de cette population. Et ça donne des lieux qui sont extraordinaires. Moi, chaque fois que j'y vais, je suis toujours étonné. Voilà, c'est une ambiance très très particulière et chacun est différent, ça fonctionne. Alors ils ont tous les mêmes, à peu près les mêmes choses, hein, c'est-à-dire il y a toujours un coin bibliothèque, enfin un coin en bouquin, vente de bouquins, librairie, un truc culturel, c'est-à-dire des animations culturelles. Alors après, selon les régions, Lautrec, comme c'est une région touristique, ça tourne pratiquement, ils font la moitié de leur chiffre d'affaires entre le 15 juin et le 15 septembre. D'accord, là ils sont ouverts tous les soirs. Et ils ont quelque chose où il y a une ambiance qui est une ambiance où on voit que ce n'est pas une entreprise lucrative classique. On voit qu'il y a quelque chose qui se déroule entre eux, dans les gens, dans les clients, aussi le rapport aux clients. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et dans les cas graves, dans une. Je ne dirais pas le nom, voilà, ça n'a pas d'importance, mais qui avait eu une baisse d'activité, essentiellement, c'est les clients qui sont venus apporter le capital. Voilà, ce qui prouve quand même que les gens du patelin, ils avaient envie que ça tourne.
En fait, il n'y a pas de. La question des pratiques, en fait, il n'y a pas de bonne pratique. En fait. Nous, on connaît certaines conditions, effectivement, pour que ça. Où ça fonctionne et on essaye d'enseigner ça, mais en même temps, j'ai envie de dire, effectivement, la condition nécessaire, c'est les statuts. Ensuite, il y a la question des pratiques. Il faut tout le temps articuler les deux, mais justement, ces pratiques, il faut toujours les remettre en question. En fait, il y a quelque chose qui est toujours à défendre. Il y a quelque chose qui est toujours à questionner, toujours à défendre. C'est pas une question technique en fait. C'est vraiment, ça reste tout le temps, la pratique reste tout le temps une question politique. Toujours, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce que là on n'a pas glissé? Est-ce que là, à force d'organiser de telle manière, finalement on n'a pas perdu le projet politique du départ, etc. C'est quand cette pratique est tout le temps re-questionnée par le collectif que ça fait vivre la coopérative et le projet politique. C'est un peu le fondement de la démocratie, enfin de la démocratie telle qu'on l'entend, c'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est parce qu'on pense que c'est menacé, sans arrêt menacé, qu'on est tout le temps en train de la défendre. Et si on dit ça y est, ok, on s'est constitué, on a fait la coopérative, on a trouvé des pratiques qui fonctionnent assez bien, etc. Et maintenant c'est bon, on s'est stabilisé, et ça y est, on a trouvé les bonnes pratiques, c'est là où ça va commencer.
Mais c'est plus qu'à démocratie, c'est le propre de tout collectif. Mmh. C'est le plus petit collectif qu'on connaît, c'est le couple. Si le couple, vous considérez que lorsque vous êtes marié, la situation elle est réglée, vous êtes sûr d'aller contre un mur. c'est parce que vous mettez toujours en question le coup que vous dites, il peut se casser la gueule, qu'il tient. Mais si vous ne le posez pas au départ, c'est-à-dire comme quelque chose qui peut se casser, vous allez à la catastrophe. Donc, tout collectif comme ça, si vous constituez le collectif en disant ça y est, on est une chouette bande de copains, ça va, c'est peinard, vous êtes sûr d'aller au carton. Parce que ça ne se passe jamais comme ça. C'est toujours parce que vous avez peur qu'il va y avoir un accident, que vous passez au-dessus, que vous essayez de passer au-dessus. Les conflits dans les coopératives, ils existent, hein, ils existent comme partout. Mais le fait de le mettre comme ça, de dire attention, c'est ça qui risque de nous faire tomber, un couple, c'est une tragédie. Et ça ne tient que parce que c'est une tragédie.
Dans le cas de Mondragon, quel est le rôle de l'université ?
Alors, il y en a plusieurs. Il y a une partie université classique, et puis après, il y a une partie formation des coopérateurs quand ils sortent de coopérative, quand ils passent de coopérative à d'autres. Il y a un fort poids là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont c'est financé. C'est financé par 10% des ressources de chaque coopérative. 10%.
Hein, France. Quand même, les
moyens sont énormes. Forcément, tu sais, il faut. Ils ont un truc, c'est-à-dire qu'ils fabriquent leur coopérative pour que la coopérative soit autonome. Voilà. Et chaque fois qu'une coopérative grossit, moi je l'avais vu sur une coopérative de forge là, qui grossissait trop, donc ils ont cherché des fonctions qui pouvaient s'isoler. Donc ils ont dit, mais ça finalement, cette fonction-là de l'entreprise de forge, on pourrait la séparer, en faire une entreprise à part. Et quand ils sont arrivés à ça, ils décident en commun de couper la coopérative, donc de la ramener à une taille plus petite pour que l'autre ait l'autonomie. Et la nouvelle, pratiquement, il y a toujours 5-6 directeurs qui sont dans le conseil d'administration au départ. C'est-à-dire, vous avez tous les gens qui viennent adhérer pour faire marcher cette petite coopérative qui démarre. Moi, j'ai assisté comme ça à une coopérative solaire qui a été montée avec celle de la forge, avec etc. Et dedans, le directeur, ils ont une montée fulgurante. Hein. Ils sont passés de 7-8 coopérateurs à 50-60 en l'espace de 4 ans. Et je me souviens d'avoir rencontré le directeur de cette coopérative. Il m'a dit, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de mérite, hein, parce que tous les gens qui étaient bons étaient autour de moi. Donc finalement, c'est un truc voilà, hein, qui s'est fait épauler par tous les autres. Mais je crois qu'il y a une culture de ça. Il y a une culture. Quand les gens en France, souvent, vous disent les coopératives, c'est long à décider, etc. C'est vrai, mais comme tout collectif, quand vous voulez décider collectivement, c'est plus long que si vous décidez tout seul, c'est évident. Mais en même temps, les gens qui ont goûté à ça se disent la prise de risque, elle est beaucoup plus faible. Elle est beaucoup plus faible parce que quand la décision a été prise, il n'y a pas de merde. Quoi. Les gens ne viennent pas dire « ouais, la stratégie ne nous plaît pas », etc. Ils l'ont décidé, ça a été voté. Voilà. Moi, je me souviens d'avoir rencontré le responsable de Fagor, qui était président du conseil de surveillance de Brandt en France, qui a fait un conflit énorme, qui était un truc catastrophique, et qui m'avait dit, j'avais rencontré à Paris, il m'avait dit, mais je trouve que c'est vachement dur qu'une société comme Brandt tout seul. C'est-à-dire qu'on prend les décisions tout seul, puis après on est emmerdé, les syndicats viennent nous voir, on dit on n'est pas d'accord avec la stratégie, etc. C'est vachement compliqué, et il disait, dans un groupe coopératif, ça ne peut pas exister. Dans un groupe coopératif, vous faites voter la stratégie par en assemblée générale. Quand elle est votée, c'est fini. Quoi. Ça ne se discute plus après. C'est voté. Et donc, pour le président lui-même, c'est vachement simple de faire rouler le truc. Mais ça, c'est compliqué quand l'habitude... Il n'y a pas d'habitude, quoi. C'est compliqué à inculquer. Je pense que ça explique aussi le fait qu'en France, on n'est pas beaucoup dans ce truc-là. Quoi. C'est relativement compliqué parce que...
L'université fait des formations continues aux différentes coopératives de
Mondragon. Non. De Mondragon, oui. Mondragon, oui. Je croyais à la note. Non, nous. Mondragon, oui.
Oui, j'avais une question. Je voulais savoir si vous avez eu l'occasion d'accompagner ou si vous connaissez des entreprises traditionnelles lucratives qui se sont transformées en coopératives.
Alors, on en a. Alors, c'est un gros problème, ça.
C'est possible.
Il y en a plein.
C'est de plus en plus difficile. Hein.
Mais c'est un problème, c'est un vrai problème, parce qu'il vaut mieux monter une coopérative nouvelle que de transformer une entreprise ancienne en coopérative. Ça veut dire qu'il faut changer tous les comportements des gens qui ont adhéré à l'ancienne entreprise. Alors, c'est un des gros problèmes des coopératives en France, c'est que souvent, moi je me souviens d'avoir assez fortement critiqué la Confédération Générale des SCOP en France, parce que je leur disais, vous faites de la publicité dans les coopératives comme négatif. C'est-à-dire, vous en faites quand vous avez un dépôt de bilan, ou bien quand vous avez un manque de repreneurs. C'est les deux seules fois où vous dites, mais alors, donc, s'il n'y a pas de repreneur, etc. Je disais, ce n'est pas en négatif que vous devriez parler, c'est en termes positifs, c'est-à-dire pourquoi monter immédiatement une coopérative plutôt qu'une entreprise classique. Bon, alors, sur ces deux aspects,
J'avais oublié de vous annoncer qu'il faut faire. C'est la quête pour le financement d'Alternativa. Je vais l'annoncer en début de conférence, je vais vous le dire. Ça va passer mieux, tout à fait.
Voilà, donc il y en a plein, hein. Il y a beaucoup d'exemples, mais avec des fois des choses un peu surprenantes, par exemple que le journal Nice Matin, en difficulté financière, obtienne du tribunal qu'on annule toutes les dettes en contrepartie d'un montage en SCOP, quand on connaît les idées divulguées par Nice Matin, ça laisse un peu pantois, quoi, hein. C'est pas une grande victoire. Donc voilà, vous pouvez avoir ce type de situation, mais on en connaît la Belle Aude, on avait à l'université il y a une semaine à la Belle Aude. La Belle Aude, c'est une université, c'est une entreprise dans laquelle le patron est parti, grosso modo, comme un voyou. Les ouvriers ont obtenu la gestion de l'entreprise, ils sont combien
125.
25 salariés.
C'était 128 à se battre contre la fermeture de. En fait, ils ont été rachetés par un fonds d'investissement qui a effectivement tenté de siphonner l'entreprise. Et ce qui est important d'ailleurs, justement, c'est que pour la constitution du collectif qui va ensuite reprendre la coopérative, il y a 18 mois de lutte. D'abord contre la fermeture. Il y a 18 mois de lutte et ils obtiennent effectivement un certain nombre de victoires. Ce qui fait que de victoires, c'est-à-dire 1 million sur la table et puis chacun une grosse prime, je ne me souviens plus des. Mais cette victoire, entre guillemets, permet effectivement de constituer un collectif qui va créer la coopérative qui s'appelle maintenant les Fabriques du Sud. Et ils ont tout remis en question, c'est-à-dire ils ont fait des glaces de très bonne qualité alors qu'ils étaient plutôt sur de très mauvaise qualité industrielle, etc. Avec un ancrage sur le territoire en disant le marché des glaces, la Belle Aude, c'est le territoire, etc. C'est pas pour vendre, en Roumanie ou je sais pas où. Mais cette histoire, ils sont quand même passés de 128 personnes, et beaucoup de gens sont partis, n'y ont pas cru, etc. Et ils sont maintenant 25 salariés. Et ça fait 5 ans et ça fonctionne très bien.
Mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Hein. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué. Et le risque d'échec est quand même fort. Le risque d'échec est fort. Hein, parce que c'est toujours des passations qui sont compliquées. Dans le cas de Brandt, moi j'avais été invité à Lille par la CGT, un débat à la CGT. Donc. C'était très très curieux et en même temps le représentant de la CGT qui était un membre de Brandt disait que lui pour lui c'était absolument inadmissible d'acheter des parts de capital. Voilà. Pour lui c'était inconcevable que son père était dans cette boîte, qu'il avait été humilié par le patronat de Brandt, que son grand-père était là et que c'était. Et moi j'ai pas d'argument là-dessus. Comprends bien que voilà dans des histoires comme ça les gens ne puissent pas, on ne peut pas leur dire acheter du capital, quoi. Pour eux c'est symboliquement et donc ils expliquaient ça aux gens de Mondragon et Mondragon les regardait un peu bizarre en disant bon ouais, enfin nous on a acheté du capital. Ils comprenaient pas trop pourquoi, c'est un dialogue de sourds, hein. C'est compliqué ces trucs là c'est à dire quand les entreprises ont trop d'histoires de lutte sociale, d'humiliation, de combat avec le patronat, etc., après leur dire rachetez le capital, pour eux symboliquement c'est compliqué, alors que c'est vrai que nous dans les jeunes qu'on a, ou les moins jeunes du reste, hein, ils se posent pas cette question parce qu'ils sont sur le même niveau, ils sont sur un pied d'égalité, ils ont pas l'intention. Il y a partout des règles du fait qu'un salarié employé au bout d'un an devient coopérateur, c'est la règle, hein. Soit il est coopérateur, soit il s'en va, mais il ne peut pas rester salarié. Donc il y a tout un jeu de règles qui font qu'ils ne sont pas dans cet esprit-là. Et ils ne se voient pas comme détenteurs de capital. Hein.
On va prendre une dernière question, puis ensuite on en arrivera, parce que je crois que ça s'arrête à 13h30. t'entend pas. Faut parler plus fort.
Et moi, c'est vrai que quand on utilise, je associe ça au fordisme dans ma tête. Mais le fordisme, c'est plutôt un exemple de cercle vertueux, puisque de ce que l'on sait, il a augmenté les salaires et il a permis un accès à l'automobile plus simple. Et donc, je me demande pourquoi coopérativisme et productivisme ne peuvent pas aller de concert quand le productivisme il est conscient de donner un bilan pour maximiser le bien-être collectif.
Le problème, c'est que le bien-être collectif, là, en question, si c'est effectivement d'avoir chacun sa voiture, nous, enfin, personnellement, la question du bien-être collectif, elle ne peut pas être posée comme ça, en principe, comme étant l'augmentation de la consommation. C'est-à-dire que le fordisme, c'est fondamentalement l'idée qu'il faut produire plus pour consommer plus. A priori, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour voir que ça va dans le mur au niveau écologique, quoi. Donc, non, ce n'est pas un cercle vertueux. C'est quelque chose qui a fonctionné en institution, c'est-à-dire qu'effectivement, ça s'est stabilisé, mais au prix d'une montée des pollutions et de tous les problèmes dont on hérite maintenant, qu'il faut remettre en question. Donc, ce que disait Jacques en introduction, c'est qu'il n'y a pas l'étrange glorieuse qui était un cercle vertueux, puis quelque chose qui s'est transformé en capitalisme financiarisé, qui aurait été la forme dévoyée de capitalisme qui pourrait fonctionner. Non, on pense qu'en fait, au fondement, c'est la même chose. Ça s'approfondit, mais c'est la même chose. Donc, ce qu'il y avait dans le capitalisme financiarisé, ce qui est déjà là dans le fordisme. On n'a pas une analyse positive du fordisme. Voilà. Y a une critique fondamentale du productivisme, en effet. Du fait que l'augmentation des salaires en soi est bien. Pas la question, il ne faut pas augmenter les salaires. Dire que l'augmentation des salaires en soi est bien, c'est pas qu'il ne faut pas augmenter les salaires, c'est augmenter les salaires pour quelle consommation. C'est surtout ça.
Une dernière question.
Oui, c'était pas forcément sur le même sujet. C'était tout à l'heure, on avait parlé de commerce équitable et vous parliez de la théorie des limites que vous expliquez aujourd'hui. Du coup, je voulais savoir s'il n'y avait pas eu un glissement avec le commerce équitable, si on achète un paquet de café à Leclerc qui vient du Pérou. Et comment on sait que ce fameux commerce équitable répond aux exigences, aux valeurs qu'on pourrait nous avoir?
Parce que dans le commerce équitable, vous avez deux ensembles d'entreprises. Vous avez celles qui font des labels et puis celles qui disent il faut faire des filières intégrées. Donc la labellisation, c'est un truc très simple, c'est des entreprises privées qui, compte tenu d'une marque, d'un label, ont un cahier des charges et vont regarder dans le cahier des charges tout ce qui vont cocher. S'il manque des choses, on va vous dire, pour avoir le label AB, par exemple, il vous faut faire ceci ou faire cela. En général, le cahier des charges, c'est assez bien tenu. Hein, le seul problème, c'est que vous avez énormément de trous. Par exemple, on va regarder ce que fait le producteur, on va regarder le distributeur, et au milieu, si vous transportez vos marchandises en avion, etc., on ne le regarde pas. Okay ? Alors, il existe un autre courant, qui est les filières intégrées, en France, c'est une coopérative qui s'appelle Munga, qui fait ça, qui s'occupe de ça, et qui, eux, vont regarder tous les stades de la production, voir comment ça se... Alors, dans le second cas, c'est relativement bien fait, et on peut être assez content des résultats qu'ils ont. Sauf que la difficulté, c'est qu'elle n'est pas diffusée par les grandes surfaces, et donc elle touche beaucoup moins de monde. Vous la trouvez chez Artisans du Monde, ou etc., dans les structures qui sont... qui sont beaucoup plus petites, beaucoup plus faibles par. Si j'ai répondu à la question. Oui.
On va s'arrêter là.
On va s'arrêter là. Merci.
Merci. Au revoir.